Chapitre 4 La porte vers Tonnefoudre 1 Lorsque les quatre vagabonds s'éveillèrent, Roland le premier au bout de 6 heures exactement, il y avait de nouveaux Popkins entassés sur un plateau recouvert d'un torchon et aussi des boissons. Cependant, nulle trace du robot domestique.
« Très bien, ça suffit. » dit Roland après avoir appelé Nigel 3 fois. Il nous a prévenu qu'il était en bout de course. On dirait bien que, pendant notre sommeil, il a atteint la ligne d'arrivée.
« Il faisait quelque chose contre son gré, » fit Jake.
Il avait le visage pâle et gonflé. Roland crut d'abord qu'il avait dormi trop profondément, puis il se demanda comment il avait pu se montrer aussi stupide. Le garçon avait pleuré le père Callahan.
« Il faisait quoi ?»
demanda Eddie en balançant son sac sur son épaule avant de hisser Susanna sur sa hanche.
« Pour qui ? Et pourquoi ?»«
Je ne sais pas, » répondit Jake. « Il ne voulait pas que je le sache et je ne me sentais pas à l'aise à l'idée d'aller fouiller. Je sais que ce n'était qu'un robot, mais avec son gentil accent anglais et tout, il était aussi plus que ça, on aurait dit. »
« Voilà un scrupule qu'il va te falloir dépasser, » conseilla Roland aussi doucement qu'il le put.
« Est-ce que je suis lourde, trésor ?»
demanda gaiement Susanna à Eddie.
« Ou peut-être, devrais-je dire, est-ce que ce bon vieux fauteuil roulant ne te manque pas trop, sans parler du harnais ?»«
Suz, tu détestais ce harnais, sac à dos. Tu l'as détesté dès le premier jour, et on le sait tous les deux. »
C'est pas ce que je te demandais. Et toi, tu le sais.
Roland était toujours fasciné de voir Deta se glisser l'air de rien dans la voix de Susanna, ou encore plus effrayant, dans les expressions de son visage. L'intéressé ne semblait pas se rendre compte de ses incursions, de même que son mari, en cet instant.
« Je te porterai jusqu'au bout du monde, » fit Eddie d'un ton sentimental, en l'embrassant sur le bout du nez. À moins que tu reprennes 5 kilos, bien sûr. Alors il faudra que je t'abandonne en route et que je me cherche une princesse plus légère. »
Elle lui balança un coup dans les côtes, un vrai coup, et se tourna vers Roland.
« C'est fichtrement grand par ici, une fois qu'on est en sous-sol. Comment on va faire pour trouver la porte qui mène à Tonnefoudre ?»
Roland secoua la tête. Il n'en savait rien.
« Et toi, Cisco ?»
demanda Eddie à Jake.
« C'est toi qui es fort avec le Shining. Tu pourrais pas l'utiliser pour trouver cette porte qu'on cherche ?»«
Peut-être, si je savais par où commencer, mais je ne sais pas. »
Et sur ces bonnes paroles, ils se tournèrent tous les 3 vers Roland. Non, tous les 4, pour être précis. Car même ce fichu bafouilleux maudit des dieux le fixait. Eddie aurait réussi à trouver une blague pour atténuer le malaise qu'il aurait ressenti à se faire examiner ainsi par 4 pères dieux. D'ailleurs, Roland en chercha désespérément une. Un truc du genre « trop de mirettes, pas de miracle », peut-être. Non, cet adage qu'il avait entendu dans la bouche de Susanna parlait de cuisinier et de potage. Il finit donc simplement par dire «
On va fouiner un peu aux alentours, comme les limiers quand ils ont perdu une piste, et on verra bien ce qu'on trouvera.
Peut-être un nouveau fauteuil roulant pour moi ?
Suggéra Susanna avec bonne humeur.
Ce sale petit blanc n'arrête pas de se balader ses mains partout sur mon corps pur.
Eddie lui adressa un regard sincère.
S'il était aussi pur que tu le dis, chérie, il ne serait pas ouvert comme ça.
2. C'est Ote qui prit finalement le contrôle de la situation et qui les guida, mais seulement après qu'ils furent retournés à la cuisine. Les humains exploraient les lieux avec un manque de méthode qui commençait à perturber franchement Jake quand Ote se mit à aboyer son nom.
« Hack ! Hack ! Hack ! »
Ils rejoignirent le bafouilleux près d'une porte entr'ouverte portant l'inscription « Niveau C ». Ote s'éloigna de quelques pas dans le couloir, puis jeta un regard par-dessus son épaule, les yeux brillants. En constatant qu'il ne le suivait pas, il aboya pour signifier sa déception.
« Qu'en pensez-vous ? » demanda Roland. « On devrait le suivre ? »
« Oui, »
fit Jake.
Quelle piste a-t-il pu retrouver ?
Fit Eddie. T'as une idée ?
Peut-être quelque chose dans le Dogan,
avança Jake.
Le vrai, celui sur les bords de la Wai, là où Otey et moi on a surpris le pas de Ben Slightman et le... Vous savez bien, le robot.
Jake ? Demanda Eddie. Ça va, petit ?
Oui.
Mais le fait est que ça lui avait fait un coup de repenser au hurlement du pas de Benny. Andy, le robot messager, visiblement fatigué des jérémiades de Slightman, lui avait tiré ou pincé le coude, un nerf sans doute. Et Slightman s'était mis à brailler comme une chouette, comme aurait pu dire Roland, et sans doute avec une pointe de mépris en passant. Slightman, le jeune, était au-delà de tout ça à présent. Et c'est cette prise de conscience, imaginez ce garçon, autrefois plein de vie et de joie, et aujourd'hui aussi froid que la vase au fond de la rivière, qui avait fait marquer un temps d'arrêt au fils d'Elmer. Il fallait bien mourir, certes, et Jake espérait s'en tirer au moins honorablement quand l'heure viendrait. Après tout, il s'entraînait pour ça depuis assez longtemps. Mais c'était l'idée de la tombe qui lui faisait peur, l'idée d'être allongé. D'être allongé là en continuant à être mort. L'odeur d'Andy, froide mais huileuse et bien reconnaissable, remplissait tout le Dogan, sur l'autre rive de la Wai, car Slightman l'aîné et lui s'y étaient retrouvés maintes et maintes fois avant l'attaque des loups, et l'accueil triomphal de Roland et de sa drôle d'équipe. L'odeur n'était pas exactement la même, mais elle ne manquait pas d'intérêt. C'était sans nul doute la seule odeur familière qu'Otey avait dénichée jusqu'ici, et il voulait la suivre.
« Attends une minute !» fit Eddie. « J'aperçois quelque chose qui pourrait nous être utile. »
Il déposa Susanna, traversa la cuisine et revint en poussant une table en acier, sans doute utilisée pour transporter des piles d'assiettes fraîchement lavées ou des ustensiles volumineux.
« Saperlipopette, tu fais des vrilles, choupette !»
lança le jeune homme en hissant Susanna sur la table. Elle se mit à l'aise, s'accrochant au bord tout en gardant un air dubitatif.
« Et quand on se retrouvera au pied d'un escalier, tu feras quoi, Biquet ?»«
Quand Biquet arrivera devant un pont, Biquet brûlera le pont !» répondit le jeune homme en poussant la table vers le couloir. « Allez, Otey !» « Bougez-vous, les huskies !»«
Otey, ski !»
Le bafouilleux ne se fit pas prier et se mit à trottiner, baissant la tête de temps à autre pour enfouir sa truffe dans l'odeur, mais surtout par acquis de conscience. La piste était trop fraîche et trop évidente pour qu'il ait le moindre doute. C'était l'odeur des loups qu'il avait trouvée. Au bout d'une heure de marche, ils franchirent une porte de la largeur d'un hangar portant un panneau « chevaux ». Derrière, la piste les mena jusqu'à une autre porte. Cette fois indiquant « aire de ravitaillement » et « réservée au personnel ». Aucun d'eux, pas même Jake, et ce malgré son incontestable don de Shining, n'eut conscience à quelque moment que ce soit d'être suivi par Walter Odim pendant une partie de leur périple. Sur le garçon, cependant, le bonnet de pensée de l'homme à capuchon fonctionnait très bien. Lorsque Walter se serait assuré de l'endroit où les menait le bafouilleux, il ferait demi-tour et retournerait tenir palabre avec Mordred, ce qui se révélerait une grossière erreur. Mais la bonne nouvelle, c'était que ce serait aussi pour lui la dernière. Otey s'assit devant la porte close, le genre qui s'ouvrait dans les deux sens, sa petite queue de dessin animé collée à son arrière-train, et se mit à aboyer.
« Ake, ouvre, 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 Ake !»«
Ouais, ouais, une minute, » dit Jack. « Garde ta salive. Air de ravitaillement, »
commenta Eddie.
« Au moins, il y a un peu d'espoir. »
Il poussait toujours Susanna sur sa table en acier, ayant réussi à négocier sans trop de difficulté la descente du seul escalier qu'ils avaient croisé, de quelques marches seulement. Susanna était passée devant, sur les fesses, son mode de déplacement habituel, et Eddie et Roland avaient suivi en portant l'engin. Jake s'était intercalé entre Susanna et les hommes, le pistolet d'Eddie dégainé, le long canon de l'arme calé dans le creux de l'épaule, position connue sous le nom de « la garde ». Roland dégaina à son tour, plaça son pistolet dans le creux de son épaule droite et poussa la porte. Il la franchit en s'accroupissant légèrement, prêt à plonger dans une direction ou dans l'autre, ou à sauter en arrière si la situation l'exigeait. Mais la situation n'exigea rien de tel. Si Eddie était passé en premier, il aurait pu croire, ne serait-ce que quelques secondes, qu'il se faisait attaquer par des loups volants, un peu du genre des singes volants dans Le Magicien d'Oz. Roland, pour sa part, ne débordait pas d'imagination. Et bien que la plupart des rampes fluorescentes au plafond de cet énorme espace qui rappelait une grange ait rendu l'âme, il ne gaspilla pas son temps, ni son adrénaline, à se méprendre sur la nature des objets suspendus. Il s'agissait de robots pilleurs cassés, en attente d'être réparés. « Vous pouvez entrer, » lança-t-il, et ses paroles lui revinrent en écho. Quelque part, dans l'ombre de la charpente, des battements d'ailes résonnèrent. Des hirondelles ou des rouillots d'étables qui avaient trouvé un passage depuis l'extérieur.
« Je pense que tout va bien. »
Ils entrèrent à leur tour et restèrent plantés à un moment, contemplant le décor dans un silence fasciné. Seul l'ami à quatre pattes de Jake ne parut pas impressionné. Otey profitait de cette pause pour se faire un brin de toilette, d'abord le flanc gauche, puis le droit. Toujours assise sur sa table roulante en inox, Susanna finit par prendre la parole.
« Je vais vous dire, j'en ai vu du pays, mais un truc pareil, jamais. »
Les autres étaient dans le même cas. Cette pièce gigantesque était bondée de loups qui semblaient suspendus en plein vol. Certains portaient leur cape verte à capuche à la Docteur Doom, d'autres pendaient là, seulement vêtus de leur armure métallique. Certains étaient décapités, à d'autres il manquait un bras ou une des deux jambes. Leur visage gris-acier découvrait toujours les dents en un rictus plus ou moins hostile selon l'éclairage. Un amas de capes vertes et de gants dépareillés jonchait le sol. Et à une quarantaine de mètres, la pièce dans sa totalité devait mesurer environ 200 mètres de long, se trouvait un seul et unique cheval gris, allongé sur le dos, les jambes dressées à angle droit vers le plafond. Il n'avait plus de tête. De son cou émergeait un entrelacs de fils électriques gainés de jaune, de vert et de rouge. C'est avec précaution qu'ils emboîtèrent le pas à Otey, qui traversait la pièce en trottinant, sans paraître s'inquiéter le moins du monde. En roulant, la table métallique faisait ici un vrai vacarme qui résonnait comme un écho sinistre. Susanna gardait le nez en l'air, à cause du manque de lumière dans ce lieu qui avait dû briller autrefois de mille feux. Elle avait d'abord cru que les loups flottaient, maintenus par un système d'apesanteur quelconque. Puis ils débouchèrent sur une zone mieux éclairée et elle aperçut les câbles.
C'est ici qu'ils devaient les réparer, dit-elle.
Enfin, s'il restait quelqu'un pour s'en charger.
« Eh, c'est sans doute là-bas qu'ils rechargeaient leur batterie !»
suggéra Eddie en désignant du doigt une série de renfoncements le long du mur du fond qu'il commençait à voir plus distinctement. Dans certains se tenaient des loups droits comme des i. D'autres stalles étaient vides, et on apercevait des prises alignées. Soudain, Jack éclata de rire.
« Quoi ?»
demanda Susanna. « Qu'est-ce qui se passe ?»«
Rien, c'est juste que... »
Son rire repartit de plus belle, un son fabuleusement jeune dans cette pièce macabre.
« C'est juste qu'on dirait des types dans le métro, alignés devant les cabines téléphoniques, en train d'appeler le bureau ou leur petite femme. »
Eddie et Susanna y réfléchirent quelques instants, puis éclatèrent de rire à leur tour. Roland en déduisit donc que Jack devait avoir raison. Après tout ce qu'ils avaient traversé, plus rien ne le surprenait. C'est d'entendre l'enfant rire qui lui réchauffa le cœur. Il était normal que Jack pleure la perte du père, mais il était bon de constater qu'il savait encore rire. Très bon, assurément. 3. La porte qu'il cherchait se situait à gauche des alcôves de rechargement. Ils reconnurent tous le sigle avec le nuage et l'éclair, le même que celui du mot laissé par R.F. au dos d'une page du « Zonzon quotidien d'Oze », mais cette porte était très différente de celle qu'ils avaient rencontrée jusqu'ici. Mis à part le sigle, elle était entièrement utilitaire. Sous la couche de peinture verte, on voyait qu'elle était en acier, non pas en bois de fer ou en bois fantôme, plus lourd. Elle était encastrée dans un montant gris, en acier lui aussi, dotée de part et d'autre de raccordements électriques isolés, épais comme une cuisse. Il courait vraisemblablement dans l'un des murs. De derrière ce mur montait un grandement sourd qu'Eddie crut reconnaître.
« Roland, » dit-il à voix basse, « tu te rappelles le portail du rayon auquel on est arrivé presque au début de notre voyage ?» Avant même que Jack rejoigne notre joyeuse bande ?»
Roland acquiesça.
Quand on a abattu les petits gardiens, l'escorte de Chardik, ceux qui avaient survécu.
Eddie confirma d'un signe de tête.
J'ai posé l'oreille contre cette porte pour écouter, et j'ai pensé, tout est silence dans les corridors de la mort. Ce sont les corridors de la mort où les araignées tissent leurs toiles et où les grands circuits se taisent l'un après l'autre. »
Il l'avait récité à voix haute. Mais Roland ne fut pas surpris qu'Eddie ne se le rappelle pas. Il avait été hypnotisé, ou presque.
« À l'époque, on était à l'extérieur, » poursuivit Eddie. « Mais plus maintenant. Maintenant, on est à l'intérieur. »
Il désigna la porte ouvrant sur Tonne Foudre, puis du doigt retraça le parcours des gros câbles.
Le système qui alimente ce truc-là ne m'a pas l'air bien en point. Si on doit s'en servir, je suggère qu'on le fasse tout de suite. La porte pourrait se refermer pour de bon à n'importe quel moment. Et qu'est-ce qu'on fera ?
Il faudra appeler Nouvelle Frontière ?
Fit Susanna d'un air rêveur.
Je crois pas, non. On se retrouvera cuit. « Comment tu dis, Roland ?»«
Cuit comme un cochon dans le four à houblon. Ce sont les chambres de la ruine. Tu as dit ça aussi, tu t'en souviens ?»«
Je l'ai dit, à voix haute ?»«
Si fait, » dit le pistolero en les menant à la porte. Il tendit le bras, toucha le bouton, puis retira la main.
« C'est chaud ?»
demanda Jack. Roland secoua la tête.
« Électrifié ?»
suggéra Susanna. Le pistolero secoua de nouveau la tête.
Alors vas-y, tente le coup, lança Eddie. Allons guincher un coup.
Ils s'agglutinèrent derrière Roland. Eddie avait de nouveau hissé Susanna sur sa hanche et Jack avait pris Otté dans ses bras. Son éternel sourire aux lèvres, le bafouilleux haletait. Ses yeux cerclés d'or scintillaient comme de l'onyx poli.
Et qu'est-ce qu'on fait? « Si elle est verrouillée ?»
avait l'intention d'ajouter Jack, mais avant qu'il en ait eu le temps, Roland saisit le bouton de la main droite. Il tenait son pistolet dans la gauche et tira, ouvrant la porte. Derrière le mur, les machines passèrent à la vitesse supérieure, dans un grondement presque désespéré. Jack crut renifler une odeur de brûlé. Il était en train de se dire qu'il se faisait sans doute des idées quand certains des ventilateurs suspendus au-dessus d'eux se mirent à tourner. Ils étaient aussi bruyants que des bombardiers sur la piste de décollage dans un film de la Seconde Guerre mondiale, et les cinq compagnons sursautèrent. Susanna porta même la main à sa tête, comme pour se protéger d'une éventuelle chute d'objet.
« Allons, » fit sèchement Roland, « dépêchons. »
Il franchit la porte sans un regard en arrière. Pendant la seconde où il se trouvait entre les deux côtés, il eut l'air brisé en deux morceaux. Derrière le pistolero, Jack aperçut une vaste pièce lugubre, bien plus spacieuse encore que l'aire de ravitaillement, et des raies argentées qui s'entrecroisaient comme des rayons de lumière vive.
« Allez, Jack, » dit Susanna, « à ton tour. »
Jack inspira profondément et franchit le pas. Il ne ressentit pas de turbulence comme celle qu'il avait éprouvée dans la grotte des voix. Pas de carillon non plus. Il ne partit pas Vahadash, pas même une seconde. Au lieu de quoi, il eut la sensation monstrueuse qu'on le retournait littéralement et il fut pris d'assaut par la nausée la plus violente qu'il ait connue de sa vie. Il bascula en avant et ses genoux se dérobèrent sous lui. La seconde d'après, il était par terre. Otay fut éjecté de ses bras, Jake s'en rendit à peine compte, il fut pris de haut le cœur. À quatre pattes à côté de lui, Roland était dans le même état. Près d'eux monta le teuf-teuf d'un moteur et le ding-ding-ding insistant d'une cloche et une voix dans un haut-parleur. Jake tourna la tête, s'apprêtant à dire à Roland qu'il comprenait maintenant pourquoi on envoyait des robots par cette foutue porte, mais il dut d'abord vomir. Les restes de son dernier repas vinrent décorer le ciment craquelé d'un amas fumant. Il entendit Susanna hurler « Non, non !» d'une voix affolée. « Repose-moi, Eddie, repose-moi, je t'en prie, avant que je... » Elle fut interrompue par des jappements violents. Eddie réussit à la poser sur le sol en béton avant de se retourner pour se joindre au cœur des dégueulis. Otay tomba sur le côté, toussa d'une voix rauque, puis se remit sur pattes. Il avait l'air assommé et désorienté, ou peut-être Jack projetait-il seulement sur le bafouilleux ce qu'il ressentait lui-même. La nausée commençait quelque peu à s'estomper quand il perçut l'écho de bruit de pas. Trois hommes accouraient vers eux, vêtus de jeans, de chemises en batiste bleue et de drôles de chaussures faites maison. En tête venait un homme âgé avec une tignasse blanche échevelée. Tous trois tendaient les mains en l'air.
« Pistolero !» s'écria l'homme à cheveux blancs. « Et vous êtes des pistoleros ? Et si oui, ne tirez pas, nous sommes de votre côté !»
Roland, qui n'avait pas l'air en état de tirer sur qui que ce soit, « encore que je ne parierai pas là-dessus, se dit Jake, » essaya de se relever. Y parvint presque, puis dut remettre un genou en terre pendant qu'un nouveau haut-le-cœur le secouait. L'homme à cheveux blancs le saisit par le poignet et le hissa debout sans cérémonie.
« Ces nausées sont atroces, » reconnut le vieillard. « Je suis bien placé pour le savoir. Heureusement, ça passe rapidement. Il faut que vous veniez avec nous tout de suite. Je sais que vous n'en avez pas franchement envie, mais vous voyez, il y a une alarme dans le bureau du qui... dame, et... »
Il s'interrompit net. Ses yeux, presque aussi bleus que ceux de Roland, s'écarquillèrent. Même dans la pénombre... Jake vit le visage du vieil homme devenir blanc comme un linge. Ses amis l'avaient rejoint, mais il ne parut pas le remarquer. C'était Jake Chambers qu'il dévisageait ainsi.
« Poppy ? »
fit-il à voix tellement basse que c'était à peine un murmure.
« Mon Dieu, tu es bien Poppy Garfield ? »